tropicalo, yeah, alléluia.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même, tu...
Couleur tropicale avec Laetitia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Hervé Mandina, Benoît Le Tyran et Mathias Taylor. Bonne arrivée la famille, bonne arrivée la génération consciente. La génération consciente qui, depuis aujourd'hui, a sa web-série disponible sur le site de TV5Monde. 10 épisodes sur 30 sont déjà en ligne. 10 portraits de jeunes d'Afrique qui, au quotidien, œuvrent et construisent le continent loin de toutes les revendications légitimes, mais qui ont besoin de femmes et d'hommes engagés, car personne ne viendra construire l'Afrique à la place de la jeunesse africaine. C'était justement le rêve de Ruben Umniobe, personnage totémique, militant d'une indépendance réelle du Cameroun. C'est le personnage central de 1958, le quatrième album de Blik Bassi, qui est notre invité. Nous recevons également le groupe Lokoti, créé par Carlos et Philippe, dont l'un des titres de l'album est un hommage à Fela Ramson Anikulapo Kuti.
Qu'est-ce que tu...
Je disais Fela Kuti, pour gagner des secondes.
D'accord. Voilà, vous savez tout, ou presque. Je précise que Céline Guillaume est là, normal, puisque nous avons des invités à la maison. Et c'est Blik Bassi qui va ouvrir cette session live de Couleur Tropicale.
Pavi cos, pavi pousuo. Pavi tem, pavi pel, ma belle. Un wom, pavi holos. Pavi pan, pavi kengiswo. Pavi tat, pavi tem, lingen. Nyu kini che long imporol. Matai nyu kinisros long imporola mbai vavi holos divlori vi quis nio divi yong divi sem nio mbai vavi holos mama divlori vi soros nio Rivion, rivisoros, nio.
Nyukini che long imporol. Nyukini chol nio matai. Nyukini sros long imporola. Nyukini che long imporol. Nyukini chol nio matai. Nyukini sros.
Nubi en lo imbo
Carole, Glick Bassi, hommage à Ruben Oumniobé, Céline. Je sais que tu es, et cela fait quelques années, hein, que tu es tombée d'amour pour la voix de Glick Bassi.
Complètement, depuis Lehman.
Tu sais qu'on va faire un petit peu d'histoire là.
Beaucoup, j'ai l'impression.
Eh oui, toi-même tu sais.
Dis donc, toi l'invité.
Ok.
Claudie va te poser des questions.
Ok.
Et tu vas lui donner les bonnes réponses. Hein.
Glick Bassi, bonne arrivée.
Merci.
Merci, c'est moi qui vais te remercier. Merci et merci. Alors merci pour ce quatrième album, l'album 1958, sorti le 8 mars dernier. Merci pour cet hommage à Ruben Oumniobé. Alors, hasard du calendrier, nous sommes dans la semaine où certains ont célébré le 47e anniversaire de l'unification du Cameroun. C'était le 20 mai 1972. Ouais. Et... on s'aperçoit, nous en tout cas, Couleur Tropicale, on s'est aperçu que beaucoup de jeunes Camerounais oubliaient leur histoire, avaient même oublié cet épisode-là. Et je me suis demandé, est-ce finalement aussi pour cela, parce qu'on a tendance à oublier les grands personnages, les grandes dates, que tu as souhaité rendre hommage à ce héros universel qu'est Ruben Oumniobé?
Ouais, je pense que nous vivons dans une société qui va vite, où les gens sont plus animés par l'instinct de survie. Comment gagner mon loyer, comment payer mon loyer, comment gagner ma vie, comment exister dans ce monde capitaliste. C'est cette place-là que les gens essayent tout simplement d'avoir, et ce qui amène les peuples qui ont une histoire qui a été complètement falsifiée puisque réécrite par d'autres. Ces peuples-là, en fait, qui sont aussi embarqués dans un couloir de survie, oublie tout simplement parce que malheureusement n'ont pas eu des bases structurelles solides pour pouvoir avoir des gardiens qui rappellent au quotidien le besoin et la nécessité de rester connecté à son histoire. Et nous n'avons malheureusement pas la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir vraiment construit une base structurelle qui permet, lorsque ça dérive, de revenir sur la nécessité de tout simplement être reconnecté avec ce que nous sommes, parce que rien ne vit sans la racine.
Je me suis pris la tête avec quelqu'un sur Facebook, parce qu'on rappelait, on est aussi dans une semaine un peu spéciale, aujourd'hui 23 mai, c'est également le jour où nous honorons la mémoire des victimes de l'esclavage colonial européen et de toutes les formes d'esclavage d'ailleurs. Et sur Facebook, sur ma page personnelle, une personne me dit « Ouais, mais enfin bon... on est en 2019, faut oublier tout ça. » Mais c'est un truc. Je me suis énervé, j'étais chaud bouillant.
Non, mais je comprends, parce que c'est des espèces de ouais, ça revient souvent.
Hein,
beaucoup de gens qui disent qu'il faut oublier.
Justement, je voulais entendre Blick sur cette question. Que réponds-tu à ceux qui pensent que revivre le passé, c'est finalement raviver la douleur? Parce que c'est ce que les gens reprochent parfois.
Ouais, mais ces personnes-là
aux artistes qui ont cette
pas...
démarche.
Non, mais la personne qui m'a répondu ne va même pas jusque-là. C'est genre, oh, tout ça, c'est du passé. Et j'ai dit à la personne, bah, ok, très bien, oublions tout, vivons le présent et oublions qu'il y a même un avenir. Soyons juste dans l'immédiateté des choses.
Mais de toute façon, on ne peut pas oublier le passé. Nous sommes le futur du passé. C'est-à-dire parce qu'il y a eu le passé que nous sommes là aujourd'hui. Et je pense que pour ces gens-là qui se disent, il y a des douleurs qui ont eu lieu. Mais justement, si on a envie de vivre en paix aujourd'hui, il faut essayer de faire une espèce de thérapie. Et la thérapie ne peut se faire que si on revient sur qu'est-ce qui s'est réellement passé au-delà de la thérapie, mais tout simplement de pouvoir savoir que nous rappeler tout simplement quels sont, sur quel idéal ceux qui sont par exemple morts, ceux qui ont connu cette souffrance, pourquoi ils sont morts? Est-ce qu'on fait comme si ça n'a pas vraiment existé? Ça me rappelle, j'ai rencontré une dame en Afrique du Sud lorsque je tournais un de mes clips qui me disait que les nouvelles générations s'appellent, se fait appeler les « born free ». Et elle était complètement malheureuse parce qu'elle se disait, parce que ces jeunes la disaient, non, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec l'apartheid. Nous, on est né après, et donc on est born free. Et donc elle me disait que ces gens-là essayaient de se recréer une vie dans l'alcool, dans le matériel, dans, en plus avec des outils aujourd'hui qui nous permettent de nous recréer une vie, des réseaux sociaux qui nous font croire que nous avons une autre vie. Et donc elle disait que cette génération était complètement coupée de son histoire et elle trouvait ça malheureux et qu'il était vraiment urgent de revenir sur notre storytelling et réécrire les choses par nous-mêmes.
On va parler d'histoire tout à l'heure. Carlos,
oui, Maguidi,
bonne arrivée.
Merci.
Philippe Monange, bonne arrivée.
Bonjour, Claudine.
Le duo Locoty.
Oui.
Vous aussi, vous nous permettez de repartir un petit peu dans l'histoire. Alors, à travers cette alchimie musicale, on va en parler tout au long de cet entretien, mais aussi en évoquant Fela. Parce que lui aussi, il y a toute une jeune génération, alors ça reste là encore un personnage emblématique d'une époque, mais on a tendance à l'oublier. On oublie ses chansons, il est moins présent, on ne le diffuse pas parce qu'il n'est pas afrobeat. Mais si, il est afrobeat.
Ah oui.
C'est même le père de l'afrobeat.
Vous
avez bien compris que je l'avais fait exprès.
Ouais.
Non, mais c'est ça. Oui, pourquoi avoir eu envie justement de rappeler la mémoire, raviver la mémoire de Fela? Chanter Fela.
Tu prends toutes mes questions là, mais c'est pas ça.
En tout cas, bon, moi, je vais passer la parole à Philippe parce que Philippe, c'est vraiment le fan de Fela.
C'est toi, ouais. Philippe, le responsable de ça.
C'est un peu moi le responsable. Voilà, bon, après, Carlos est responsable aussi de l'arrangement et de la vision du morceau.
Ouais.
Mais non, mais moi, je me suis dit, bon, on fait un album, c'est notre premier album tous les deux.
C'est votre premier projet.
Ensemble, projet ensemble, quoi. Et je me suis dit, bon, on commence, voilà, c'est le premier truc, il faut quand même qu'on rende un hommage à, voilà, à ce grand homme, quoi.
Ouais.
C'est quand même lui qui a, enfin moi il m'a beaucoup inspiré et puis j'aime beaucoup sa musique et puis en plus il a été clavier aussi,
ouais.
Et puis bon, il y a tout ça, puis il y a tout ce qu'il a représenté pour l'Afrique, la musique urbaine, voilà, donc c'était juste un hommage à ce grand baobab, quoi.
Même James Brown l'a pompé.
Voilà, tout le monde l'a pompé. C'est vrai.
Je manque à tous mes devoirs. Vous connaissiez-vous Carlos, Philippe et Blick, vous connaissez?
Évidemment.
Bien sûr.
Bien sûr.
Non, mais excusez-moi, je pose les questions pour les auditeurs, avant que les auditeurs. Donc, puisque vous jouez les malins, comment, où vous êtes-vous connus? Avez-vous déjà collaboré ensemble?
Oui, on se connaît depuis un bon moment
plusieurs.
On a joué dans différents groupes ensemble et tout.
C'est-à-dire
En fait, je pense, moi, je suis arrivé en France il y a 13, 14 ans aujourd'hui. Et
juste après
l'aventure
Macaz.
Voilà.
Ou plutôt la mésaventure.
L'aventure.
Enfin, l'aventure, oui, qui s'est transformée en une mésaventure.
Ouais. Et donc, lorsque je suis arrivé ici, mes premiers pas, je les ai faits au Baiser Salé avec Herfelo Bongo qui est là-bas, avec Carlos.
Voilà.
J'ai rencontré Philippe, donc on jouait dans différents, mais vraiment dans énormément de formations différentes. On s'est croisés, donc on se connaît très bien. On a fait nos armes ensemble à Paris, dans des clubs.
Alors, imagine que vous dîniez tous les trois et. Eux ne sont pas très aguerris à l'histoire du Cameroun et au parcours, à cette vie extraordinaire de Ruben Umniobe. Que dirais-tu de ce grand homme? Que leur dirais-tu de Ruben?
Ben, je leur dirais que Ruben Umniobe était un... Pour moi, me rappelle un peu la place qu'ont les anciens chez nous. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de visionnaire et un rassembleur.
Mmh. Mais quoi d'autre? Que dirais-tu de sa lutte menée, de son assassinat incroyable, enfin juste irresponsable de la part, et là je pense aux dirigeants politiques camerounais de l'époque?
Ben, je leur dirais que mon Cameroun aujourd'hui se retrouve dans cette situation parce qu'on a tué la personne qui voulait que les choses se passent autrement, parce qu'on voit bien que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient dans le camp de ceux qu'on avait formés par la France pour réclamer une indépendance partielle, et quand on parle d'indépendance partielle, ça veut dire une partie un peu, et l'autre partie appartient toujours à la France, et c'est ce que nous vivons toujours aujourd'hui. Mais que si Umniobe avait été là, je pense que les choses auraient été complètement différentes.
Et puis, il faut rappeler encore et encore que des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ont été commis contre les populations du Cameroun.
Absolument.
Plus de 400 000 morts, et que la France a utilisé, avec la complicité des dirigeants camerounais de l'époque,
Absolument. Le
napalm.
Exactement.
Pour réprimer.
Exactement. En fait, ce qui est difficile aussi, c'est que c'est ceux qui donnent les définitions aux mots, c'est-à-dire le crime contre l'humanité, c'est les mêmes qui ont commis. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire la personne qui commet le crime, c'est lui qui redéfinit. Quand est-ce que ça l'est, quand ça ne l'est pas, quoi.
C'est l'histoire de ce monde encore aujourd'hui.
Absolument.
Hein. Que diriez-vous lors du même dîner en parlant de votre passion de Fela, Philippe?
Je lui dirais que, bah, voilà, parce que, que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup influencés. Par contre, ce que je pourrais lui dire, c'est que l'arrangement qu'a proposé Carlos, ça tire vers le Bikutsi. Donc ça pourrait l'intéresser, en tout cas pour le morceau qu'on a fait, pour la version qu'on a fait.
Voilà. Avant d'en parler, vous allez jouer. Philippe et Carlos, allez vous installer.
Merci.
Tu veux pas, Carlos? Je sais pas.
Non, je voudrais juste dire qu'on va jouer Comeback.
Oui, mais j'allais le dire, mais enfin si tu veux faire
et
mon travail, il
n'y
a pas de problème. Comeback People, oui.
Qui paye l'addition à ce dîner-là?
C'est lui de Bassi, parmi nous tous, c'est lui qui a le moyen.
C'est lui qui invite.
Locoty.
Oh, la mort. J'ai encore de l'amour dans mon cœur pour toi, mon frère. Reviens, reviens.
Send you a message from here. We miss you so much, all you people everywhere in the world. It's sad, it's been such a long time. We didn't see you. We think a lot about you. We hope everything is okay for you.
Qui sera en concert le 6 juin à 20h au studio 7 à Villejuif, c'est en banlieue parisienne. Carlos et Philippe, venez nous rejoindre et présentez-nous votre chanteuse et les musiciens qui vous accompagnent.
Ah, nous avons Tina Cuisien, une excellente chanteuse franco-togolaise qui est avec nous. Et monsieur Ngoïta, le guitariste. Claudio, oui. Comment je l'appelle, parce qu'il s'appelle Claudio, moi oui. Je l'appelle Claudio.
Oui. De quelle origine, puisque tu as commencé à parler du Togo.
Oui. Donc maintenant... c'est un franco-centrafricain.
D'accord, ok, très bien.
Et monsieur, notre grand monsieur derrière Hervé Lobongo, aussi franco-camerounais. Mm-hmm. Monsieur Laurent Clippé, aux percussions. D'ailleurs, tu étais là dernièrement, toi.
Oui, ben, non, il s'est habitué. Non, mais c'est un habitué.
Oui, c'est... il habite là, en fait.
Exactement.
Et avec Philippe, Hervé et...
Aaron Djombe,
d'accord.
À la basse. Mm-hmm. Qui est directement du Cameroun, franco-camerounais aussi, quoi. Voilà. Encore un grand bassiste camerounais. Enfin, il n'y a que des grands bassistes au Cameroun.
Ah, ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Voilà. Exactement. Comeback People, vous demandez au peuple de revenir. Explication.
Voilà, c'est une chanson sur l'exil. On imagine des gens qui sont en Afrique ou ailleurs et puis qui demandent à leurs frères qui sont partis il y a bien longtemps de revenir, qui leur disent, qui expriment le manque, la tristesse, la douleur de leur disparition et qui espèrent qu'ils vont bien, que tout se passe bien pour eux. Et voilà.
C'est qu'en ce moment, c'est le leitmotiv, c'est-à-dire de dire à ceux qui sont allés... à l'étranger, apprendre ailleurs, de revenir sur le continent pour construire l'Afrique et pour reprendre une chanson de Tikenja Fakoli parce que personne ne viendra construire l'Afrique à notre place.
Ça, c'est sûr.
Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Allez, racontez-nous l'histoire de Lokoti, ce premier projet. Vous qui aviez plutôt l'habitude de travailler pour les uns et les autres.
Ah bah, Carlos. Comment on s'est rencontrés? Je ne me rappelle pas. C'était au resto avec Blic, je crois.
Ça, c'est pour se moquer de moi.
C'était en 2002.
C'était en 2002, on mangeait une dolée. Non, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'était avec Rideau Bayonne, peut-être bien, non?
Avec le grand Rideau.
Avec le grand Rideau, peut-être.
Quoi. C'était avant, non?
Ou peut-être avant.
Olivier Ngoma,
non? Olivier Ngoma, c'était après. Tu perds la mémoire.
On a joué pas mal.
Bon, comment le coup de foudre a opéré, alors?
Ouais, c'est un coup de foudre. Bon, moi je jouais, comme disait Blic, on s'est rencontrés dans Paris, on jouait partout avec plusieurs artistes parce qu'on était énormément sollicités. Et bon, moi je ne sais pas quoi dire, mais j'ai rencontré Philippe et j'ai été scotché parce que c'était, pour moi, il m'avait impressionné avec son style de jazz.
Ouais, gentil.
Et en fin de compte, en jouant, je pense que c'était avec Djilou, si je ne me trompe pas, que je l'ai vu vraiment développer le bikutsi parce qu'il avait... une influence de jazz mélangée du bikutsi. Et ça, ce truc-là m'a interpellé. Et je me suis dit, ce pianiste-là, il a quelque chose. C'est un magicien. Et c'est à partir de ça que, bon, vu le chemin faisant et tout, je lui ai proposé un matin, qu'est-ce qu'on fait? Il est temps de faire un autre projet, au moins, quoi, qu'on puisse exister. Et il m'a dit, oui, pourquoi pas. Et puis, Voilà.
Ça a commencé comme ça.
Philippe, africanité, évidemment, c'est le socle de ce premier album. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi de l'universalité dans cette musique-là. Il y a un vrai mélange.
Bah, c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que bon, la Carlos vient de me faire plein de compliments, mais je peux lui retourner aussi. C'est vrai que moi, j'avais été impressionné surtout par la diversité des styles qu'il arrivait à jouer, parce que depuis que je connais Carlos, ça fait quoi, 10-15 ans, je l'ai toujours vu dans plein de trucs différents, quoi, que ça soit des trucs africains, des trucs de funk, du reggae, de la salsa, tu vois. Donc bon, on s'est dit, on va faire un truc un peu qui peut ressembler à ce que peut être Paris aujourd'hui, quoi. Voilà, avec plein d'influences, on va pas faire un truc béninois seulement, tu vois, ou seulement. Donc voilà, c'était l'idée de faire une fusion quand même, avec une base quand même afro, mais avec d'autres influences, quoi.
Non, mais de toute façon, le groupe Lokoti, c'est l'Union africaine.
Oui, c'est oui, l'Union africaine.
Dans le bon sens du terme.
Ouais. L'album est enraciné en Afrique, mais il aborde aussi des thèmes sociétaux. Mm-hmm. Qui a voulu aller sur ce terrain-là? Pourquoi ?
Bon, moi je suis resté quand même un peu sur le côté folklore de l'Afrique, mm-hmm. étant béninois, parce que je me dis, on va pas perdre nos racines, comme disait Blake tout à l'heure, et c'est important de toujours rester dans la source, tu vois, et de se ressourcer. Donc je me suis dit, on va essayer de créer une influence qui part partie du folklore, jazz, la musique du monde, un peu du mélange, quoi, une fusion. Et c'est comme ça, j'ai composé, on va dire, des rythmes, bikuti. On retrouve un peu de tout dedans, en fait, dans le style, dans l'arrangement musical, en fait. Et c'est...
Moi, je parlais de l'écriture.
Au niveau des textes.
Oui, oui. Parce que c'est jamais anodin d'aller sur certains thèmes que vous visitez. On va en parler, mais...
Mm-hmm. On en parle maintenant.
Alors, tout le monde constate qu'il est autoritaire. Oui.
Non,
mais personne ne veut s'engager, en fait. C'est le grand plaisir. Personne ne veut
s'engager. Tu sais. Et si nous en parlions maintenant, Céline
Non, on peut en parler maintenant, mais il y a ce thème de l'argent qui peut diviser les gens et les sociétés. Vous abordez aussi le thème du blanchiment de la peau. On l'a dit, l'exil. Oui. C'est jamais anodin d'aller sur ces terrains-là, et ça peut être clivant aussi. Donc, pourquoi être allé là ?
Mais en fait, c'est pas tellement, je dirais, pour avoir c'est pas politique, quoi. C'est plutôt dire des paroles simples, quoi, qui expriment simplement des choses par rapport à notre réalité.
Forts.
Mais des thèmes forts, voilà. Mais tu remarqueras que les paroles sont très simples, quoi, dans le quotidien. C'est juste par exemple, tu parlais du blanchiment de la peau, bon, mais ça reste, on le dit pas vraiment non plus. On dit naturel, toi jeune fille, tu es belle.
Oh bah, il y a quand même n'aie pas peur de ta couleur. Voilà.
Oui, voilà. Oui.
Mais hein, ça... C'est bien
comment
dit,
vous voilà. dire, on peut
n'aie
pas être
pas peur de ta couleur.
C'est vrai.
J'adore Philippe. On le dit pas trop.
Mais, non, c'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que on essaye de rester assez général, quoi. Enfin, assez voilà.
Non, mais ce qui est dit est dit. Voilà. On a évoqué Fela, on a parlé de Fela. Voici justement le titre hommage à Fela Ransonouk avec Nicolas Kouti. C'est dit.
Big master of the Afrobeat music. This is Lokoti from Paris. Carlos, Philippe, we are proud to offer you this little prayer. Kisila K.
The king of Afrobeat. Sensations full of vibrations. It's really cool. It's really good.
Badami, badami, oh badami, oh baba chinwe, badami,
badami.
Hommage à Fela Lokoti sur RFI dans Couleur Tropicale, premier projet. Quand est-il sorti?
L'année dernière.
L'année dernière,
12,
c'est ça.
12 avril 2018.
Exactement. Oui. Et puis on rappelle que vous serez à Villejuif en concert le 6 juin, donc au Studio 7, c'est à 20h. Carlos, Philippe et Blic, vous souvenez-vous, il y a quelques années, hein, avant la disparition de Fela, avant donc le 2 août 1997, de cette polémique qu'il y a eu autour de celui qui devait, en tout cas, endosser la paternité de l'Afrobeat. C'est-à-dire que beaucoup disaient c'est Fela et d'autres disaient non, c'est Manu Dibango. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Cette polémique-là? J'étais trop jeune.
Non, moi je me souviens pas. Moi aussi je m'en souviens pas. Non.
En fait, Claudie, tu es l'aîné en fait.
C'est sympa parce que, voilà. Parce que c'est vrai que durant ces périodes-là, durant ces années 70-80, ces artistes-là qui étaient partis un peu aux quatre coins du monde, même si Fela avait toujours gardé cette, contrairement à Manu, avait toujours gardé cette base, Lagos chez lui, et puis il partait aux États-Unis avec une première tournée très galère, il allait un petit peu partout en Europe, mais c'est vrai que tous les deux ont apporté ce mélange, cette alchimie musicale qui faisait à la fois danser la planète, et l'un disait non c'est moi et l'autre disait non c'est moi. On a vu ça aussi un petit peu dans le coupé décalé. Blic Bassi, dans ton ouvrage, premier ouvrage, et là je parle de littérature, Le Moabi Cinéma, c'est une autobiographie, hein.
Pas vraiment.
Ah oui.
Ouais, c'est un peu autobiographique.
Un tout petit peu, mais pas
il
vraiment.
Il n'ose pas te dire non.
Non, mais.
Il est vraiment. Non, ça, c'est la classe, l'élégance à la camerounaise.
Non, c'est vrai.
Il n'ose pas te dire non.
Non, mais parce que si tu veux, pour moi, il y a quand même beaucoup de lui sur. Sur ta vie. Alors, sur ta vision, c'est ce que je voulais dire. Oui. Sur ta vision des choses, puisqu'il
absolument,
est question d'identité.
Absolument.
Comment est-ce que, lorsque l'on est africain, comment est-ce que l'on peut résister à ce rouleau compresseur qu'est la culture occidentale? Ouais. Qui bouscule, écrase, lamine parfois. Dans ton ouvrage, bah, tu exprimes comment toi tu vis les choses et quelles sont peut-être les solutions pour les uns et les autres. Est-ce que l'Africain est condamné encore et encore à subir ce poids et cette puissance occidentale lorsqu'on parle de culture et d'identité?
Je pense que en fait, ce qui est en train de se passer en Afrique aujourd'hui me rappelle un peu ce qui se passe en France avec la nouvelle génération des jeunes qui sont dans les banlieues. C'est-à-dire, beaucoup disent qu'ils ne sont pas intégrés. Et tout simplement parce qu'on a l'impression que les parents étaient intégrés. Est-ce que les parents de cette génération actuelle étaient intégrés?
Ouais.
Je pense que non. Je pense que les parents ont fermé leur gueule, ont travaillé et faisaient profil bas, se cachaient presque. C'était là pour faire de l'argent. Ils font des enfants qui naissent ici, ils font des enfants ici, et ces enfants se sentent français. Ils sont français, mais par contre, ils sentent qu'on leur démontre qu'ils ne sont pas réellement français. Quand ils vont en Afrique, on les appelle les petits blancs. Quand ils sont ici, ils voient bien qu'ils ne sont pas traités comme le français normal. Et donc, ces jeunes-là vivent une crise. Et cette crise-là fait partie du processus d'intégration.
Est-ce que la crise...
Et c'est la même chose que je pense qu'en Afrique aujourd'hui, en fait, les gens de ma génération sont dans une crise d'intégration qui fait que les générations, je suis sûr que 5, dans la 3-4 générations plus tard, ils n'auront pas d'autre choix que pour survivre, hein, que de repartir dans repartir à l'origine. Parce qu'on voit bien avec des exemples, on voit le Japon, on voit la Chine, on voit tous ces différents pays que... Ils ne peuvent aujourd'hui avoir l'expansion qu'ils ont que parce qu'ils sont complètement liés à leur tradition.
On a la question d'un auditeur qui est dans ce goût-là de Jim Rangar, Théadoum Osana. Bonjour, que pense Blic sur la crise anglophone et quel est son message pour la paix dans son pays, le Cameroun? Crise anglophone qu'on pourrait aussi appeler crise francophone, en l'occurrence aussi.
Absolument, mais je pense que notre pays vit tout simplement, c'est le résultat de la décolonisation, hein, c'est-à-dire quand on dit décolonisation, je mets des guillemets, parce que une vraie décolonisation, en fait, ne se donne pas, elle s'obtient. À partir du moment où elle se donne, ça veut dire que ceux qui décident de partir préparent bien les choses pour que les choses ne finissent pas réellement. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Et à partir de ce moment-là, on voit bien que... moi, j'étais par exemple dans un lycée bilingue. Et dans le lycée bilingue, on nous éduquait de manière consciente ou inconsciente que les anglophones étaient des sous-camerounais. Et nous, on les appelait d'ailleurs les anglofous. Et quand tu sortais par exemple avec une fille qui était anglophone, c'était presque honteux. Et donc... les francophones qui sont majoritaires ont été éduqués
à traiter les anglophones de manière inconsciente comme des Camerounais de seconde zone. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a 5-6 ans, lorsque les anglophones demandent tout simplement à avoir un peu plus de droits des étudiants qui faisaient des manifestations, on leur a répondu à travers une grosse répression. Et donc, toutes ces frustrations pendant des décennies ont fait qu'aujourd'hui, les anglophones ont décidé de prendre les armes. Et le seul moyen de pouvoir régler ça, c'est vraiment à travers le dialogue. On ne peut pas se mettre à tirer sur ses enfants. Comme il y a encore 2 jours, on a tué un enfant de 4 mois, on lui a tiré dans la tête par les policiers. L'armée camerounaise tire sur des gens parce qu'ils parlent une autre langue. Pourtant, derrière, leur première langue, c'est la même langue que moi. Il y a les Bassa qui viennent de cette région et qui ne sont anglophones que grâce ou à cause de la deuxième langue qui est complètement étrangère. Donc tout cela part vraiment de la stupidité du fait que nous avons encore un pays qui est gouverné par un groupe formé par la France, parce que c'est ceux qui réclamaient l'indépendance partielle qui sont toujours au pouvoir, parce qu'il y a eu Aïdjo, et Biya était dans le gouvernement d'Aïdjo. Et c'est toujours lui qui est là, et c'est ces gens-là qui avaient été formés pour réclamer une indépendance partielle. Donc on voit bien que c'est tout simplement la suite logique de cette fausse indépendance qui a eu lieu, qui fait qu'aujourd'hui les problèmes ne sont pas réglés.
Tu parles de Paul Biya, qui est effectivement secrétaire général de la présidence à l'époque. Tu parles de ceux qui voulaient une indépendance partielle. L'actualité nous rattrape lorsque l'on voit l'Algérie, qui a obtenu donc son indépendance dans le sang, très clairement, et avec une jeunesse qui est capable de sortir dans la rue, et avec un gouvernement qui est obligé de reculer et d'écouter le peuple. Lorsqu'au Cameroun, et à différentes périodes, on a vu le peuple sortir dans la rue, la répression a été sanglante et terrible. Et les graines plantées hier expliquent les fruits amers d'aujourd'hui. C'est ce que tu nous dis.
Ah oui, absolument. Et je pense que ce qui se passe aussi actuellement au Cameroun, c'est qu'on sent bien une fin de règne. Et c'est cette panique qui fait que Valsero soit en prison aujourd'hui. Ce qui n'est pas possible. On ne peut pas voir un artiste comme Valsero emprisonné. On ne peut pas emprisonner des opinions. Et donc, on voit bien qu'il y a une espèce de panique générale qui fait qu'on ne sait pas comment ça va finir. En plus, quand on voit ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé en Algérie, on panique. On se dit, ça va peut-être partir d'un événement à Yaoundé, à Douala, ou à Bamenda, ou à Tchang. Et donc, du coup, ceux qui se battent pour que ce gouvernement, que les choses, leurs intérêts propres ne changent pas, ils essaient tout simplement de réprimander ou de réprimer tout cela qui demande tout simplement une vie de base, pouvoir se soigner au lieu d'aller en Suisse.
Merci d'avoir évoqué Valsero. Tu sais que nous plaidons tous pour sa libération. Et on va te demander de nous interpréter Ngwa. Et dans cette chanson-là, justement, tu t'adresses à
Podol Oumiobé.
Ouais. À Ruben Oumiobé.
Absolument, oui. Je lui dis, toi qui as donné ta vie pour l'intérêt général, pour l'intérêt commun, sachant que tu n'allais pas voir tes enfants, tes petits-enfants, tu es mon Ngwa, tu es mon ami. Toi qui as décidé de te battre pour que nous soyons debout là aujourd'hui, tu es mon Ngwa, tu es mon ami.
Allez, Big Bassi, on va te demander de nous interpréter cette chanson très touchante.
C'est mon coup de cœur sur l'album.
Pardon ?
C'est mon coup de cœur sur l'album.
Ah mais oui, non, mais je te comprends. Il y a quelques coups de cœur sur cet album-là, magnifique, où se mêlent histoire et actualité finalement, parce que l'histoire nous ramène toujours à l'actualité. Lorsque certains voudraient justement mettre de côté le passé, juste dire que le passé nous permet de comprendre le présent, de construire l'avenir, mais il ne faut jamais être prisonnier du passé. Blik Bassi, Ngwa.
Avengis Guayem Noé, Bayes, Yosoyon, Ila Mayin Lende, Wenu Vipin Chel, Porol Noé.
L'album 1958 sorti le 8 mars dernier. Et Blik Bassi était le 15 avril sur la scène de la Cigale à Paris, l'occasion de présenter évidemment l'album, mais je suis persuadé que les anciennes chansons, comme par exemple, tiens, au hasard, Donalina, l'as-tu interprété sur la scène de la Cigale ?
Non, je crois pas.
Mais pourquoi ?
Parce que je n'étais pas là. Plein d'autres chansons, il fallait choisir, c'était pas facile. Hein.
Parle-nous de cet album que tu as enregistré à Paris, au studio Ferber, célèbre studio.
Oui, absolument. En fait, pour cet album, j'étais à la recherche d'un son assez particulier, de voix, mais également comme je suis parti sur une direction où les éléments de percussion étaient en fait faits par des instruments qui sont pas censés le faire, c'est-à-dire par exemple par ma voix, par la guitare, par le violoncelle, ou le trombone ou la trompette. Donc du coup, je voulais vraiment l'enregistrer dans des conditions qui permettaient d'avoir un son maximal et pouvoir donner de l'espace aussi, parce que je voulais vraiment qu'il y ait pas mal d'espace dans cet album pour aussi parce que je trouve que l'espace nous permet de voyager, de repartir vers ce passé, aller chercher, déterrer ces combattants qui étaient au Miobé, au Séné, à Fana, Moumier, Wandié. En fait, c'était pour moi une manière comme si je lançais la parole pour qu'ils m'écoutent de là où ils sont. Et donc, j'ai besoin que ça sonne de cette façon. Et pour cela, pour moi, le studio Ferber chez Renaud Létan était juste le lieu où il fallait le faire.
Tu as cité quelques noms très rapidement, Ernest Wandié, Félix Moumier, qui a été d'ailleurs assassiné en Suisse par des membres des services secrets français. Là, on revient à l'histoire. C'est très important de dire, et merci, parce qu'à travers cet album-là, 1958, eh bien, tu nous ramènes à cette urgence de connaître son histoire.
Absolument.
Pour préparer le présent. On va vous demander d'aller rejoindre les musiciens, Philippe et Carlos. Ouais, je sais que vous écoutiez religieusement. On va vous offrir l'album 1958. C'est indispensable.
Mais c'était presque une prière, qu'on vient d'écouter.
C'était un moment effectivement émouvant. Et lorsque Blik parlait d'espace, je comprends ce que tu veux dire. Et dans le même temps, je me suis demandé, en termes d'arrangement, est-ce qu'il ne faut pas aussi aujourd'hui avoir des choses un petit peu plus
dépouillées et purées?
Un peu plus dépouillées et purées à une époque où, dans les musiques pop, afro, mainstream, on est vraiment... Il y a
y a beaucoup de fréquences, il y a beaucoup de choses.
Ah, mais tellement d'informations, en plus avec les réseaux sociaux et les chaînes en boucle aujourd'hui, on est complètement saturé d'informations.
Bon, Locoty, Joy.
Joy.
Version simplifiée, c'est ça? L'album éponyme, spéciale recommandation. Carlos, Philippe, venez nous rejoindre, il nous reste très peu de temps. Moi, je kiffe Tina.
Ah, pareil, pareil.
C'est Tina, en plus, Tina.
Il y a quelque chose
Tina.
De volcanique, mais,
oui.
On l'entend. Hein.
Mais oui, ah, oui.
On a la frontière du...
Absolument, ouais.
On était à la frontière du gospel, là.
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
Super mélange.
Ah ouais.
C'est alchimique. Non, mais c'est vrai. On
merci pour vos compliments. Merci.
À un moment donné, je me suis cru en Latin jazz et puis des trucs un peu funk et Carlos à la batterie qui s'éclate.
À fond. On est parti dans toutes les directions.
C'est un groupe de fous.
Laisse la joie t'ouvrir le chemin, montrer la voie.
Voilà.
C'est une invitation à lâcher prise.
Ouais.
Non, t'as pas l'air
convaincu. Si, tout à fait. Non, j'avais pas pensé au mot lâcher prise, mais c'est vrai.
C'est ce que j'entends.
Laisse-toi, sois juste heureux, quoi. C'est exactement ça, c'est le lâcher prise.
C'est une composition de Philippe.
Carlos dit ça comme ça.
Bon, ben désolé.
Oui, c'est vrai. C'est ouais. Parce que bon, on a essayé de composer, de s'inspirer un peu. Bon, voilà, au niveau des paroles, on va dire, on a eu de la chance de rencontrer quelques chanteuses comme Louise Loury, que je salue d'ailleurs de loin.
Qui est du Cameroun
ouais. aussi. Parce que, bon, elle, au départ, on n'avait pas de test.
Ouais.
Voilà, on a fait un projet de musicien, quoi, de musicien. Donc on voudrait juste faire une fusion, tu vois, du jazz, un peu de mélange, quoi.
C'est fait.
Et ça fait rien.
Carlos, excuse-moi, je te coupe, mais je te rappelle que tu as écrit pas mal de textes, hein, naturel, c'est toi qui l'as écrit aussi.
Oui,
c'est, attention, c'est un auteur.
Je l'ai écrit grâce à cette chanteuse quand même qui m'a inspiré, au fait.
Locoty en concert jeudi 6 juin à 20h au Studio 7 à Villejuif, c'est en banlieue parisienne. Où peut-on t'applaudir puisque tu viens de terminer une tournée, Blic Bassi, y a-t-il d'autres dates?
Oui, en fait, je commence une tournée et...
Une autre alors. Les dates que j'ai de toi, tu t'es arrêté à La Cigale en avril et je n'ai pas d'autres dates. Je joue régulièrement.
Ouais, je joue. Le prochain concert, c'est le 1er juin au Festival de Musique Métis d'Angoulême.
Ouais. Un festival que tu connais.
Oui. Ouais, le 8 juin, je joue dans un théâtre au Portugal pour un festival, je ne connais plus le nom. Le 9, je joue au Nijmegen Festival International en Hollande. Et puis à partir du 20 juin, je vais aux États-Unis, au Canada en tournée.
Non, mais même sa voix parlée est hypnotique. Même la voix parlée est hypnotique. Elle est hypnotisée.
Comme on dit au pays, elle est fan de toi. Toi-même, tu sais. Blic Bassi, merci infiniment. 1958, l'album est sorti le 8 mars, spécial recommandation. Et puis l'album de Locoty, premier projet. On écoute Maki là pour se dire au revoir. Ouais. Là encore une sublime chanson.
Merci.
Et là c'est mon coup de cœur, ma chère Céline.
C'est un plaisir.
Merci Philippe, merci
Carlos. Merci Claudie, merci à tous.
À bientôt.
À bientôt.
Je me permets de dire quelque chose. Je voudrais saluer spécialement monsieur Jimmy Rutinon, ce producteur que tu dois connaître certainement.
Non, je ne le connais pas.
Ah bon?
Non.
Ah oui, parce que grâce à lui, on a quand même de la chance d'être là aujourd'hui.
Merci beaucoup, merci pour lui, merci la famille.
Là, il a cassé le moteur, c'est fini.